des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, je m'appelle Clotilde Say, vous écoutez cette émission peut-être le jour du 1er mai ou en tout cas dans la semaine du 1er mai, célébration des travailleurs bien sûr, ça va beaucoup plus loin que les brins de muguet qu'on s'offre soit virtuellement, soit en vrai, quoiqu'ici au Québec c'est pas très facile de se les offrir en vrai parce que, ou alors c'est parce qu'ils sont cultivés je sais pas où, genre... Vous voyez où je veux dire. Mais on ne dira pas le nom. En tout cas, bon 1er mai à vous, bonne semaine du 1er mai et surtout à tous les travailleurs, puisqu'au départ, c'est une fête qui célèbre le travail de tous ceux qui se retrouvent où que ce soit dans un bureau ou derrière une machine. Alors, bonne fête du 1er mai à tout le monde. Et comme il n'y a pas de livre audio consacré ni au 1er mai ni au brin de muguet, je me suis dit, tiens, et si on allait au Portugal ? Pourquoi le Portugal ? Et pourquoi pas le Portugal ? Ça me tentait, comme ça. Je me suis plongée dans tous les sites audio pour voir ce que nous réserve ce pays-là. Je vous le dis tout de suite, pas grand-chose. Mais j'ai quand même réussi à dénicher des petits extraits sympathiques. Et surtout, eh bien, ne pas oublier que le Portugal, c'est le pays du fado.
Personne ne sait vraiment définir cette musique. Est-ce que c'est une lamentation, une plainte ou une complainte ? Pour mieux comprendre ce qu'est le fado, écoutons donc sa reine, Amália Rodrigues.
Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém.
Je suis une fadista. Ça veut dire en portugais une chanteuse de fado. Le fado vient du mot fatum. C'est le destin. Au point de vue fatalité, on ne peut pas changer son destin.
Et là, vous vous dites, non, mais elle va pas bien, la mère Seille. En principe, elle nous vante, quoi, les livres audio. Et là, elle est partie sur l'audio, sur la musique. Ben oui, pourquoi pas. Ça m'a fait plaisir de m'égarer un peu. Mais reprenons, je vais reprendre mes esprits. Alors, les auteurs portugais. Quels sont les livres et les auteurs portugais qu'on aurait souhaité retrouver en livre audio? Je pense par exemple à l'extraordinaire histoire du Portugal de Sandra Canivet da Costa. Je pense à l'histoire du siège de Lisbonne et toute la littérature d'ailleurs de ce monsieur. Je mets rien de tout cela en livre audio, du moins en français. Si vous écoutez vos livres en anglais, pas de souci, sur le Portugal, il y a tout ce qu'il faut. Sinon, Saramago, bien sûr, prix Nobel, et d'autres auteurs, dont Pessoa, Fernando Pessoa, sont bien représentés dans la langue de Shakespeare, mais aussi un petit peu dans la langue de Molière. Alors, j'ai finalement trouvé deux livres de Fernando Pessoa en français. Pessoa, écrivain, poète, critique pour la dictature de l'armée, mais contre la dictature civile. Portugais, oui, beaucoup. Anglais, un peu. Français aussi. Créateur du pub, incroyable. Notamment, la première fois que Coca-Cola a mis les pieds au Portugal, c'est lui qui avait fait la pub. Il a aussi fait dans l'autopsychanalyse, dans l'ésotérisme, dans le polar, mais ça, c'est un projet qui n'a jamais abouti. Et il a surtout fait beaucoup dans l'alcoolisme, dont il mourra d'ailleurs pauvre et complètement méconnu du grand public en 1935. Il y a un petit peu de tout cela dans les extraits qu'on va entendre maintenant, tirés des œuvres suivantes de Fernando Pessoa, L'intranquillité, Lisbonne revisitée et Fernando Pessoa lu par Elio Cicero pour lier la sauce portugaise, un fado de Mariza.
quel grand avantage que d'avoir l'âme disposée à l'envers. Au moins on écrit des vers, on écrit des vers, on passe pour un fou et puis pour un génie le cas échéant. Merveille des célébrités. J'étais donc en train de dire qu'au moins on écrit des vers. Or ça c'était à propos d'une jeune fille blonde, mais laquelle ?
Trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto no meu canto, amoraria.
La fréquentation d'autrui est un supplice pour moi. Je porte des autres en moi. Même loin d'eux, je suis encore forcé de les fréquenter. Je ne puis m'enfuir nulle part, sauf à me fuir moi-même. Des nuages sombres aux contours mal découpés rôdaient sur la ville. Vers une heure et demie, alors qu'on était déjà rentré au bureau, le ciel semblait plus dégagé, mais seulement du côté de la vieille ville. Du côté nord, cependant, les nuages s'agrégeaient lentement en une seule nuée qui avançait implacable. Les bruits de la rue semblaient étouffés sous cette attente anxieuse. On transpirait dans la pénombre du vaste bureau. On va avoir un bel orage, annonça Moreira en tournant la page de son grand registre.
De mim só me falto eu, senhora, da minha vida. Do sonho digo que é meu. Dou por mim já nascida.
Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é a verdadeira? E qual errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar.
La voix de Maritza, mais aussi les voix des narrateurs et chanteurs François Martouret, Elio Cicero et Richard Graille, sur des mots, je vous l'ai dit, de Fernando Pessoa. Bon, allez, on quitte le Portugal, on va se tourner vers le pays de l'enfance. Mais attention, hein, pas l'enfance des bisounours. Une enfance superbement représentée par les histoires éditées par Les Talents Hauts. C'est une série qui s'appelle Des Livres Tout Hauts. C'est une série que Les Talents Hauts viennent de lancer. Bon, c'est en France, hein, mais évidemment, par les catalogues, on peut trouver ça absolument partout dans le monde. Ce sont des versions audio interprétées par des comédiennes de talents hauts, je dois dire, et qui peuvent être écoutées seules ou alors qu'on peut aussi écouter en accompagnement du livre papier. Hein, si, par exemple, vous voulez une expérience immersive avec vos enfants. Écoutez, ce sont des comment vous dire, c'est des « j'aime pas ». C'est-à-dire que ce sont des gamins qui osent dire tout haut ce qu'ils n'osent pas dire à leurs parents. Par exemple, « j'aime pas les poupées », »,« j'aime pas la danse », un petit garçon qui dit « j'aime pas être un héros », etc., etc. Mais vous allez l'entendre, c'est vraiment très, très bien fait. Bon, par exemple, « j'aime pas être belle ». Tous les jours avant d'aller à l'école, maman vérifie si ma robe est bien repassée, si mes cheveux sont bien coiffés, si mes collants sont bien tirés, si mes chaussures sont bien cirées. Et tous les matins, c'est la même cérémonie. « Oh, comme elle est belle !» me dit-elle à longueur de temps. Hors de question de loucher ou de mettre les doigts dans son nez. Le pire, c'est le jour de la photo de classe. « J'aime pas être belle. » Ça vous donne un petit peu le... Hein? Alors il y a « j'aime pas le foot, j'aime pas les poupées, j'aime pas les super-héros, j'aime pas la danse, j'aime pas être belle, j'aime pas être grand ». Je vous propose un extrait de « j'aime pas les poupées ».
Talent haut, des livres qui bousculent les idées reçues.
J'aime pas les poupées, de Stéphanie Richard. J'aime pas les poupées. Ni les maigres avec les longs cheveux jaunes, ni celles avec des têtes de vrais bébés, ni les molles toutes chiffonnées. Pourtant, on continue à m'en offrir. J'ai compté, j'en ai 34 et demi. Oui, et demi. Parce que Dominique, la poupée folklorique de Belgique, a perdu la tête dans un combat atroce contre Carabosse. Yeah! À chaque fois, c'est la même histoire. Regarde, ma chérie, je t'ai aussi pris la poussette, la layette, les chaussettes, la dinette et la balayette. Tu seras une petite maman parfaite. Mais je ne suis pas une maman, je suis une enfant. Et les enfants, parfois, ça pique des colères. Clac ! Une jambe qui vole. Oui ! Un œil en moins. Ouille ! Tu m'écrabouilles ! Mais la plupart du temps, les poupées restent bien rangées au fond de mon coffre à jouets. Pour mes 7 ans, ça n'a pas loupé. Mamie Esther m'a offert une grande poupée aux yeux ouverts.
Alors, Lily, elle te plaît, mon Eugénie? Tu as vu comme elle est jolie? Prends-en bien soin, je l'ai depuis mes 3 ans.
Mince alors! C'est pas une poupée, c'est une mémé. J'ai emporté poupée mémé dans ma chambre, je l'ai assise sur la commode et j'ai repris ma bande dessinée. Seulement, j'avais beau essayer de me concentrer, rien à faire. Je la voyais. Là-haut, avec ses yeux ouverts. J'ai changé de place, mais elle m'observait dans la glace. Alors j'ai pris un gros bout de scotch et scratch sur les yeux. J'ai respiré un bon coup et j'ai repris mon livre. Et là, ça a fait... Plic ! Le scotch n'a pas tenu. Dis donc, poupée, ça va pas être possible. Et je l'ai rangé dans mon coffre à jouets.
Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est bien fait, parce qu'on est avec la gamine, parce qu'on voit tout. On voit les poupées démembrées. D'ailleurs, tiens, voilà, j'aime tellement ça qu'on va en écouter un autre. Cette fois-ci, c'est « J'aime pas la danse
». Talent haut. Des livres tout haut.
Moi, j'aime pas la danse, mais maman adore. Alors, tous les mercredis, j'enfile mon tutu. Mais j'aime pas les tutus, ça gratte et c'est rose. Ma prof Claire me regarde d'un drôle d'air. J'ai l'entrechat raplapla, l'arabesque grotesque, le rond de jambe qui tremble et le demi-plié tout entortillé. C'est que j'aime pas la danse. C'est très joli, mais je m'ennuie. Le pire, c'est le terrible grand écart.
Allez, mesdemoiselles, un petit effort. Je veux voir vos jambes à 9h15.
Enfin, juin arrive. C'est le spectacle de fin d'année. Nous allons danser devant papa, maman, tonton, tata, pépé, mémé et ma cousine Léontine, celle qui vit en Argentine. 12 petites sauterelles, 12 petits soleils avec leurs ombrelles s'ébrouent dans la lumière. La musique retentit. Instant suspendu. Puis gracieusement, comme emportées par le vent, 11 danseuses s'élancent vers la gauche. 11? Mais où est la 12e? Dans la salle, le public glousse, pouffe avant d'éclater de rire. Je l'entends et ça me fait plaisir. Alors, d'un coup d'un seul, c'est décidé. Je fais tout à l'envers. Des entrechats, hop là, hop là. Des arabesques gigantesques. Des demi-pliés tout étirés. Claire est désespérée.
Avec tout ce qu'on a répété,
me dit-elle entre deux sanglots et quelques trémolos.
Mais pourquoi es-tu partie du mauvais côté? Tu aurais pu t'en apercevoir. Oh non, mais quelle histoire!
Ben oui, mais je l'avais dit, j'aime pas la danse.
Talent haut. Des livres tout haut.
C'est adorable. Voilà, si vous voulez faire plaisir à vos gamins, vous faites les talents hauts. La série J'aime pas, vous allez trouver ça de toute façon sur tous les catalogues de France et de Navarre, y compris d'ici. Quoique ça, je ne sais pas si ça s'est rendu sur Nara, mais allez donc, commencez donc par nara.com, tiens, c'est le site d'ici au Québec et on ne sait jamais, vous allez peut-être tomber dessus aussi. Puisqu'on est avec les jeunes, êtes-vous allé voir le film de ce qui raconte l'enfance de Frida Kahlo à Coyoacán au Mexique, bien avant qu'elle ne devienne l'iconique artiste peintre hein, qu'elle a été. Mais le saviez-vous? Est-ce que vous vous souvenez que ce film-là existe parce qu'au départ, il y a Sophie Fauché qui a écrit « Frida, c'est moi », avec de magnifiques autoportraits qui révèlent, oui, sa beauté sombre, tout ce qu'elle a de plus beau, entre sa chevelure, tout le côté coloré, mais sa vie qui l'est peut-être moins et qu'elle nous raconte dans le livre audio qui s'appelle « Frida, c'est moi ». Et qui est à l'origine de ce film dont on va d'abord entendre la courte bande-annonce et puis tout de suite après, on va enchaîner avec un extrait de Frida, c'est moi.
Hola Frida, des murs se dressent devant toi. Hola Frida, tu t'en vas à l'au-delà. Yo soy Frida, rechace la llorona. Yo soy Frida, coraje y resiliencia.
Je suis Frida Kahlo. J'ai de super pouvoirs. Viens découvrir mon monde.
Y viva la vida!
Bonjour, ici Sophie Fauché. Je vais lire pour toi mon livre « Frida, c'est moi », publié aux éditions Édito Jeunesse. Hola, c'est moi, Frida. Tu as ouvert mon livre, je suis vraiment contente. Nous allons pouvoir faire connaissance. Je vais te raconter mon histoire. J'habite au Mexique, à Coyoacán. Dans la langue de mes ancêtres, les Aztèques, cela veut dire « celui qui possède des coyotes ». Alors moi, je suis Frida de Coyoacán des Coyotes. Ma maison est toute bleue, c'est la Casa Azul. Il y a aussi un grand jardin rempli d'oiseaux et de cachettes. Je suis Frida, cherche-moi. Maman, c'est la chef, elle s'occupe de tout. Mes trois sœurs s'appellent Mathilde, Adriana et la plus petite, Christina. C'est ma préférée.
Elle est belle. Elle est comme ma poupée. Je suis Frida, numéro 3. Papa, c'est mon idole. Il s'appelle Guillermo. Il est beau, il est gentil. Il a de grands yeux clairs qui voient tout. Il fait de la photographie et de l'épilepsie. Papa travaille dans une chambre noire. Il fait apparaître des photos dans l'eau. C'est magique. Elles sont en noir et blanc. Papa m'a montré comment les colorer. Il dit que je suis sa meilleure assistante. Je suis Frida à papa. Le jour de la fête des morts, nous allons tous au cimetière pour célébrer mon grand-père et ma grand-mère. On apporte les plats qu'ils aimaient et toute la nuit, on mange, on rit, on chante en pensant à eux. Il y a des bougies partout, des fleurs, de la musique et aussi des pyramides de friandises. Je suis Frida Bonbon. Mon ami Tonito a une tête de tatou. As-tu remarqué que les gens ont parfois des têtes d'animaux? Il y en a qui ressemblent à des singes, d'autres à des toucans et d'autres à des iguanes. Moi, j'aimerais être un aigle. J'habiterais au sommet des montagnes et je volerais très haut. Je suis Frida qui a des ailes.
Oh, que c'est charmant d'entendre Sophie Fauché lire un extrait du titre du livre qu'elle a elle-même rédigé sur Frida Kahlo. Ça s'appelle « Frida, c'est moi » et je vous rappelle que vous pouvez peut-être voir encore, je l'espère du moins sur nos écrans, le film qui a été tiré de ce livre-là, « Frida et moi ». Le film, lui, s'appelle comment? Simplement, je m'appelle Frida Kahlo ou... Ah non, « Hola Frida », ça s'appelle. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, pour finir cette demi-heure, le 3 mars dernier, sur France 2, donc en France, on a présenté Olympe, une femme dans la Révolution qui permet de retracer le parcours et les engagements d'Olympe de Gouges. Alors vous dites, mais pourquoi elle nous en parle si c'est passé, puis en France? Parce que ça va sûrement être relayé par TV5, TV5 Monde, donc on pourrait regarder ça ici aussi. On est à Paris en juillet 1793, elle a vraiment existé, hein, Madame de Gouges. 4 ans après la prise de la Bastille et le début de la Révolution, la situation est explosive. Au milieu de ce monde de violence et de mutation, il y a une seule constante à peu près immuable, les femmes n'ont le droit à rien. L'une des très rares qui va s'élever contre cette injustice, c'est Olympe de Gouges, qui est une femme de lettres, une femme de combat. Olympe qui s'oppose frontalement à Robespierre. Olympe qui est arrêtée par la police d'État. On la transfère dans une maison d'arrêt en attendant son procès. Et au milieu des autres condamnés de toutes conditions, eh bien, Olympe va continuer de lutter. Et qu'est-ce qu'on lui doit à Olympe? On lui doit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ça a été enregistré 3 fois plutôt qu'une. Extrait.
Voilà, madame. Voilà quels sont mes principes. En vous parlant de ma patrie, je perds de vue le but de cette dédicace. C'est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n'a pour objet que ceux de son pays. Je suis avec le plus profond respect, madame, votre très humble et très obéissante servante de Gouges. Les droits de la femme. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi. Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux. Consulte les éléments. Étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus. Partout, il coopère avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul sait fagoter un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. A décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés.
Afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er.
Et oui, car en effet, elle se fera guillotiner. Olympe de Gouges, interprétée ici par Marie Bouvier, du moins la première voix qu'on a entendue, et ce sera interprété par Julie Gayet, autrement dit Madame François Hollande. Quoi. Bon, je dis ça. Alors, ne manquez pas Gérald Cousineau dans quelques secondes. Alors, je vous le disais, il est annoncé, je l'attends en grande pompe, je lui ai déployé le tapis rouge. Le voici, le voilà. Gérald Cousineau, bonjour.
Bonjour, Clotilde Seille.
C'est vrai que c'est plate, hein, Gérald Cousineau. Salut Gérald, comment ça va?
Salut Claude, ça va pas trop mal.
On aime mieux ça comme ça. Oui. Gérald, tu m'as fait une proposition en me disant, c'est bizarre que tu me parles de ce livre-là, parce que ce n'est pas une nouveauté, il a déjà quelques années, mais c'est une nouveauté en audio. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant que tu nous parles de...
Ça m'étonne que d'ailleurs ce livre est paru seulement en audio aussi tard. Parce que le livre dont je parle, bon, j'ai un trou de mémoire.
Mille soleils splendides.
Mille soleils splendides, c'est extrait d'un poème d'ailleurs. Alors, je suis étonné que ce livre ait mis tant de temps à être en format audio en français.
Eh bien oui. À un moment donné, c'est ça, après les cerfs-volants de Kaboul, ils se sont peut-être dit, on devrait peut-être, hein.
Donc, deuxième roman de M. Khaled Hosseini. Un écrivain américain, ces deux livres ont été écrits en anglais, mais un écrivain américain né à Kaboul en 1965, donc en Afghanistan. Et son premier roman, Les cerfs-volants de Kaboul, ça a été un succès mondial.
Oui.
Vraiment un best-seller mondial, comme on dit. Alors le deuxième, qui est apparu quelques années plus tard, soit en 2007, ça fait quand même... ça fait 18 ans maintenant, je crois.
Oui, c'est fou. Non, c'est ça, ça vient d'arriver sur le marché.
Il en a écrit un troisième depuis. Mais donc, ce roman, paru en 2007, simultanément... Non, aux États-Unis, je pense que c'était 2005, je ne suis pas certain. En tout cas, Bellefond en France l'a fait paraître en français en 2007. Donc, nous sommes bien sûr en Afghanistan, parce que les cerfs-volants de Kaboul s'y déroulaient aussi, évidemment. Donc, nous sommes en Afghanistan, et au moment où les Russes ne sont pas encore là, mais ils s'amènent. Donc, dans les années 80, les Russes vont y passer plusieurs années, vont occuper l'Afghanistan avec toutes les horreurs que l'on sait.
Oui.
La résistance, bien sûr, à l'armée russe. Il y aura une hécatombe des deux côtés. Mais les Russes vont finir par partir. Mais ce n'est pas là le principal sujet du roman. Nous avons affaire à deux héroïnes. Deux femmes, on peut dire deux jeunes femmes, mm-hmm. qui s'appellent Mariam et Leila. Mariam, d'ailleurs, j'arrête tout de suite parce que dans l'extrait que vous avez choisi, Clotilde, on présente Mariam et son père.
Oui, c'est ça. Donc j'imagine que c'est au début du livre, tout ça.
Oui,
c'est
pas
assez...
mal, oui.
D'accord. Alors on écoute un extrait du livre dont nous parle Gérald, « Mille soleils splendides » de Khaled Hosseini.
En plus du cinéma, Djalil possédait des terres dans les districts de Karouk et de Farah, trois magasins de tapis, une boutique de vêtements et une Buick Roadmaster noire de 1956. Il jouissait d'un réseau de relations très étendu et était ami avec le maire de la ville et le gouverneur de la province. Enfin, il avait un cuisinier, un chauffeur et trois gouvernantes. Nana avait été l'une d'entre elles, jusqu'à ce que son ventre commence à s'arrondir. À ce moment-là, racontait-elle, tout l'entourage de Djalil avait manqué s'étouffer. Sa belle famille avait menacé de faire couler le sang. Ses femmes avaient exigé qu'il la mette à la porte. Le propre père de Nana, un modeste tailleur de pierre dans le village voisin de Guldaman, l'avait renié. Déshonoré, il avait plié bagages et pris le premier bus vers l'Iran. Personne ne l'avait jamais revu. Parfois je regrette qu'il n'ait pas eu le cran d'aiguiser un de ses couteaux pour faire ce que l'honneur lui commandait, déclara Nana un matin. Tandis que Mariam et elle donnaient à manger à leur poule. Cela aurait mieux valu pour moi. Elle jeta une poignée de grains dans l'enclos, marqua une pause, puis fixa sa fille. Cela aurait peut-être mieux valu pour toi aussi, Mariam. Tu n'aurais pas eu à savoir que tu étais une harami. Mais mon père était un lâche.
Moi, j'étais partie, là. J'écoutais. Alors, donc, on comprend que le père, là, bon, ben, c'est ça. C'est un monsieur.
Il a mis enceinte une des employées de sa maison.
Exactement.
Et les autres employés ne l'acceptent pas. Et le propre père de l'employé ne l'accepte pas non plus. Il est déshonoré. Il va d'ailleurs fuir dans un autre pays. Mm-hmm. Mais donc, cette femme, Nana, ben, va mettre au monde Mariam, l'une des deux héroïnes du roman. Et ce mystérieux papa, ben, il est fortuné au départ, mais bien sûr, il y aura la guerre par la suite. Donc, Mariam grandit, et à 14-15 ans, eh ben, on la donne en mariage à un homme qui en a 30 ans, qui a 30 ans de plus qu'elle, un certain Rachid, qui n'est pas un saint homme, malgré qu'il le prétende. C'est un homme assez brutal, assez violent. Donc, elle n'a pas 20 ans, elle est déjà mariée, et elle n'arrive pas à lui donner d'enfant. Elle n'arrive pas à lui donner un enfant. D'ailleurs, le premier enfant qu'elle pense avoir, elle fait une fausse couche. Alors, que va faire ce cher Rachid? Eh bien, il va se prendre une deuxième épouse. Et là, il va la prendre très jeune. C'est une jeune voisine de 14 ans qui s'appelle Leila.
Okay.
Et elle est enceinte. Alors, il l'épouse, il a donc deux épouses. Et la première, Mariam, n'accepte pas ça du tout. Évidemment, elle est en concurrence avec une jeune femme de 14-15 ans. Mais ce qui est beau dans cette histoire-là, malgré toute l'horreur qui est l'arrière-fond historique, c'est que ces deux personnages, la plus âgée, je n'ose pas dire la vieille, parce qu'elle n'est pas vieille, elle est dans la trentaine, la plus âgée et la plus jeune, donc Mariam et Leila, vont finir par s'apprivoiser mutuellement.
Mm-hmm.
Et là, c'est à nouveau de très belles pages, parce que, évidemment, le mari, je l'ai dit, il est brutal, il est misogyne, et chaque fois qu'une des deux femmes fait une gaffe, eh bien, elle la paye. Il la bat, tout simplement. Donc, ces deux-là vont finir par s'apprivoiser et la plus âgée va commencer à chérir l'enfant qui est né, le premier enfant de Leila. Elle va commencer à le chérir et à le dorloter.
Ah,
parce
oui.
qu'elle n'a pas enfanté du tout. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Donc, elle va se mettre à chérir le petit bébé.
Oui.
Et le petit bébé va le lui rendre assez bien. Donc, Ça, c'est très beau. J'ai à nouveau de très belles pages, une espèce d'apprivoisement mutuel des deux femmes et le bébé qui va les unir en quelque sorte. Mais, bien sûr, on reste en Afghanistan, ça va pas très bien. Après les Russes, là, les talibans qui se pointent, et les talibans. Là, il y a une page, j'ai ri tellement, c'était incroyable. L'auteur fait la liste des interdictions. Interdit de chanter, interdit de danser, interdit de lire, interdit d'écrire, interdit de parier, de jouer aux cartes, ça n'en finit plus, Clotilde. Ça n'en finit plus. On se dit, est-ce que c'est vrai? Ben, j'ai la raison de croire que oui.
Bah oui, bah oui. Je veux dire, on sait bien que c'est la triste réalité là-bas. Olympe de Gouges.
Oui.
Ah ouais.
On écoutait tout à l'heure.
Mais oui, mais oui. Mais oui. Ah là 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 là.
Et les femmes, évidemment, n'ont plus aucun droit, aussitôt que les talibans mettent le pied, enfin, règnent sur l'Afghanistan. Mais là, les deux femmes vont commencer à imaginer leur fuite. Oh là là. Alors, elles vont se préparer. Et Leila, elle, vole son mari. Elle vole quelques sous par-ci, quelques sous par-là. Alors, c'est très peu, parce qu'elle ne veut pas que son mari Rachid...
Bien sûr, s'en aperçoive.
Donc,
ouais,
elle vole un peu d'argent. Et un jour, alors que Rachid est parti au travail, elles prennent l'autobus et s'envolent, enfin, disparaissent. Malheureusement, elles n'iront pas très loin. Elles sont interceptées un jour par un policier. Elles sont interrogées, emprisonnées et, hélas, ramenées toutes les deux chez Rachid, qui va faire quoi, vous pensez? Il va les battre sauvagement. Et j'avoue que ces passages-là sont pas faciles. Ils sont pas faciles à écouter. Mais bien sûr, j'ai eu la version audio, c'est pas facile du tout. Mais on se dit, ça arrivait combien de fois dans ce pays-là, avec les talibans? Ça arrivait combien de fois? Donc, ce passage-là est très dur à écouter. Mais bref, elles vont devoir recommencer à vivre avec ce cher Rachid. Et à un moment donné, je ne compterai pas la fin, mais elles vont se séparer. Elles vont se séparer. Il y en a une qui va s'en sauver, la plus jeune, et l'autre, malheureusement, non. Je ne vous dirai pas dans quelles circonstances.
Non, non.
Mais c'est vraiment un roman très, très dur, mais en même temps, formidablement raconté, parce qu'on ne peut pas le lâcher. Ça me rappelle d'ailleurs les cerfs volants de Kaboul. C'était prenant comme histoire. Et bien, c'est la même chose. Bien sûr que c'est dur comme histoire. C'est dur, mais c'est bon d'aller jusqu'au bout, parce que là, vous avez une sorte de leçon. Ces deux femmes-là ont voulu s'en sortir. L'une y est parvenue. Elle, d'ailleurs, elle vivra aux États-Unis par la suite. Donc, une y parvient. Mais quel travail, quand même, avant de réussir ça. Quel travail, quel courage aussi. Quel courage dans un pays où les femmes sont traitées comme des moins que rien. Et en même temps, je pensais aujourd'hui, en 2025, on est revenu au point de départ en Afghanistan.
Exactement.
Et c'est pire. Les femmes ne vont même plus à l'école, rien du tout.
Non.
Alors on se dit, mais tout ça pour en arriver là.
Mais
n'empêche que le roman, ne serait-ce que par cette actualité-là, vaut vraiment, mais vraiment la peine d'être lu ou écouté, selon le mode de lecture que vous aurez. Mais c'est une histoire formidable, mais... Combien dur, mais en même temps, il y a de l'espoir. Je l'ai dit, il faut vraiment tenir jusqu'à la fin parce que l'espoir est là.
Et là.
D'ailleurs, ça finit sur une belle image parce qu'à la fin, on apprend que Leila est de nouveau enceinte. Donc, la vie
c'est ça.
Que la mort, que tout ce qui s'est passé avant, elle va mettre au monde encore un enfant. Donc, elle y croit encore. Elle croit encore à la vie.
Et pourquoi ce titre, d'après vous, Mille soleils splendides?
C'est un poème que je n'ai pas noté par cœur, mais effectivement, dans le poème, on parle de ces mille soleils splendides qui se dissimulent derrière les murs de Kaboul. On peut imaginer que ces femmes-là, enfermées derrière les murs, donc dans leur maison, et malgré tout, derrière ces murs-là, il y a mille soleils splendides. Plutôt que l'image est très belle. L'image est vraiment très belle. Je ne connais pas le poète qui a écrit ça, mais l'image est vraiment très belle. Mm-hmm. Et juste dans ces trois mots-là, il y a un espoir incroyable. Ouais. Donc, il ne faut pas lâcher. Et ces deux femmes-là décident de ne pas lâcher, même si l'une finit mal. Enfin, c'est voilà.
Ben merci parce que encore une fois, Gérald, vous nous donnez envie de nous plonger dans ce livre-là. Oui, j'avais lu moi aussi, comme beaucoup de gens, j'imagine qui nous écoutent, les cerfs-volants de Kaboul. Les mille soleils splendides. En fait, moi, je les associe un peu aux femmes finalement. Elles nous donnent vraiment envie de connaître cette vie de chaos, cette vie de violence. Et comme vous le dites vous-même très bien, qui existe encore, c'est même pire en 2025 que lorsque le livre, du moins qu'à l'époque où ce livre a été décrit, la description de ce livre en fait, c'est une catastrophe totale. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris l'initiative de nous en parler. C'est superbe, Gérald. Alors, on va se retrouver...
Et le livre, je dirais en terminant que le livre, malgré son âge, il est paru en 2007, mais il n'a pas vieilli. Et j'ai presque envie de dire, hélas, l'histoire se répète.
Oui, exactement.
Mais le livre est formidable.
Merci beaucoup, Gérald. Donc, Gérald Cousineau qui vient toutes les deux semaines. Oh, je pense que votre téléphone est en train de sonner, à moins que ce soit à la porte d'entrée. Alors, je vous laisse aller ouvrir. Au revoir, Gérald. Merci.
Au revoir.
Wow, Mille soleils splendides de Khaled Hosseini dont vient de nous parler Gérald. Moi, j'ai des nouveautés pour vous. D'abord, une nouveauté de Sylvain Tesson. Je ne sais pas si c'est la suite de sa chute qui a failli lui être fatale, la chute de l'escalade d'une maison un soir de Beuvry qui l'a défiguré en partie durant quelques années. Je ne sais pas si c'est cette chute-là qui lui a donné envie, à un moment donné, de faire de l'escalade pour vrai. Alors, Sylvain Tesson a contacté un ami qui s'appelle Daniel Dulac et ils ont décidé à un moment donné en 2020 en plein confinement de narguer la loi et de gravir, mais de gravir pas forcément des montagnes mais des rochers célèbres et notamment le rocher la fameuse aiguille d'Étretat qu'on a découvert dans l'aiguille creuse notamment de Maurice Leblanc. Alors au sommet de ce Piliers de la mer, c'est le titre de ce livre-là, Les Piliers de la mer, cette espèce de baroudeur de l'extrême qui est Sylvain Tesson, va à la rencontre de toutes sortes d'émotions et vraiment pour lui, il a enfin la sensation d'immensité dont il a toujours rêvé. C'est un vrai déclic que de gravir l'aiguille creuse d'Étretat et après, eh bien, ils vont en faire plein contre vents et marées à travers le globe. Mais d'abord, les voici à Étretat, sous la plume de Sylvain Tesson, c'est lu par Thierry Blanc, extrait de Les Piliers de la mer.
Philibert nous dépose au pied de l'aiguille. Dulac et moi quittons le canot muni de cordes. On se cramponne au bigorneau. Philibert s'écarte à la rame pour cacher l'esquif de l'autre côté de la porte d'aval, dans l'antre naturel du trou à l'homme. On le rejoindra plus tard, à la nage. Pour l'instant, on escalade. On essaie d'être digne des visions de Maupassant. Les parois d'Étretat sont praticables aux femmes hardies et aux hommes très souples et très accoutumés aux falaises. Il nous faut une heure pour le sommet, à 55 mètres d'altitude. Les silex se déchaussent du calcaire. On trouve des pitons rouillés. On nous a précédés. 8 heures. La marée monte. L'aiguille vibre. Les falaises miroitent. On se tient à la pointe, frappé de joie, entre ciel et mer, endroit vivable. J'ai préparé un texte. Je le lis pour les nuages. Personne n'écoute. Une mouette passe. Je replie mon papier. Dulac plante un piton et balance les cordes dans le vide. On descend en rappel. On regagne la mer, la grotte. Prévenus par les promeneurs, des gendarmes ont lancé leur canot. Ils arrivent trop tard. Sur la plage de Galet, tout à la gaieté d'avoir réalisé un bon coup, je m'aperçois que je viens d'accomplir quelque chose de supérieur à une farce. Là-haut, sur l'aiguille blanche, j'ai éprouvé une joie douloureuse. C'était un poinçon étrange, non le seul plaisir d'une plaisanterie. En équilibre sur un espace à peine plus large qu'un tabouret, j'ai rejoint le point de contact entre le temps, l'espace et mon propre cœur. Ils sont miraculeux les moments où l'instant se fixe dans la partition. Les sens reçoivent l'information aberrante et grave que nous nous sommes confondus à l'axe autour duquel le monde tourne. Tout se fige, puis se suspend. La conscience reçoit la totalité du panorama dans une image arrêtée, familière. Même le cormoran qui plane plus bas semble attendu. Peut-être est-ce là la définition du vertige ? L'élargissement de soi, non le racornissement dans la peur ? Que m'est-il arrivé ? Aurais-je trouvé sur cette aiguille de la mer un lieu et une formule? Depuis longtemps, je cherche les endroits du monde où se croise l'éternité des patries de l'enfance et le refus des encerclements modernes. Ici, personne ne nous interdit le jeu du danger et de la joie. Personne ne nous commande de nous enthousiasmer pour des causes débiles ou des marchandises hideuses. Sur cette pointe, à un jet de pierre de la falaise côtière, je me croyais au bord de l'univers. L'impression a duré quelques secondes. On se situait là, au bord du vide.
Ah, c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est pas la première fois que Tesson nous fait vivre ses expériences et ses aventures partout autour du monde. Et on l'en remercie parce que sa plume est tellement, j'allais dire, tellement vraie. Tu sais, on y est, il me semblait sentir le vent siffler en haut de ce pic-là. Comment il dit, pas plus grand qu'un tabouret. Oh boy, remarquez, moi, j'aurais jamais pu y aller, mais justement, je l'ai vécu avec lui et je le remercie, Sylvain Tesson, de nous avoir offert Les Piliers de la mer, lu en livre audio par Thierry Blanc. Ça vient de sortir, hein, c'est sorti le 10 avril dernier. Un autre qui est sorti au mois de mars, alors là, on change complètement d'atmosphère, on tombe dans le polar bien sanglant. Il y en a beaucoup d'entre vous qui aimaient ça, alors il ne faut pas gâcher son plaisir. Si vous en voulez un vrai, un qui sent fort, là, vous savez, un petit peu gluant, un petit peu tout ça, eh bien, allez vous plonger dans Survivante de Cédric Cyr. C'est lu par Ariane Brousse. Et vous y découvrirez en 12 heures et 20 minutes, donc c'est quand même une assez grosse brique, de ces femmes, des femmes qui ont soif de justice et de vengeance parce qu'elles ont traversé l'enfer. Il y en a une d'elles, une des proies qui a survécu. Et proie, elle ne le sera plus jamais parce que, et elle a décidé de venger toutes les autres. Et elle n'a d'autre choix pour se relever qu'une vengeance et une traque contre les bourreaux. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance aussi, alors n'imaginez pas que ça va se faire en douceur. Ce sera pas dans la dentelle. Extrait de Survivante de Cédric Cyr.
La drogue prenait possession d'elle, effaçait ses sens et sa mémoire. Elle a l'impression d'avoir rêvé les coups, la séquestration dans le véhicule, à moins qu'elle n'ait juste dormi sur la banquette durant le trajet. Il ne reste qu'un grand vide dans ses souvenirs, un espace noir, la pénombre moite. Le sifflement de l'homme qui la berçait comme une mélodie enfantine. Kate était revenue à elle comme on suffoque après une noyade, recroquevillée dans une matière gluante et froide, cernée par un brouhaha de grognements et de mastications. Elle grelottait. Elle avait mal partout. Une odeur nauséabonde saturait ses sinus et sa gorge. Elle prit peu à peu conscience de se trouver dans un enclos. Les grognements qui emplissaient l'air étaient ceux de porcs rassemblés derrière une barrière en bois. Les remugles putrides montaient du purin dans lequel elle pataugeait. Kate s'était assise, tremblant de plus belle à mesure que la terreur la gagnait. Alors seulement elle s'était aperçue qu'elle n'était pas seule. Il y avait une autre fille comme elle, maigre et sale, recroquevillée elle aussi au pied du mur, bras serrés autour de ses genoux repliés devant elle, qui la fixait sans un mot. Cette fille, Kate le comprit du premier regard à son visage creusé, à ses cheveux plaqués par la crasse, était là depuis longtemps. De l'autre côté de la cage, car c'était une cage géante dans laquelle elles étaient enfermées, était étendue une troisième silhouette, dont elle n'aperçut d'abord que les membres tordus et la masse de cheveux éparpillés. Cette personne-là ne bougeait plus, ne respirerait plus jamais. Kate eut un hoquet d'horreur. Elle est morte, juste après qu'il t'a amenée, avait murmuré l'autre fille. Elle a abandonné. Quoi ? Qui ? Mais pourquoi ? S'était écriée Kate. Te fatigue pas, c'est pas la première. Avant, il y en avait une autre. On essaie de jouer ici. On finit toutes par mourir, quoi qu'on fasse. Et après, il donne nos corps à manger à ses cochons. La fille avait émis un rire nerveux, longtemps. Puis elle s'était mise à sangloter en silence. Kate avait fait de même, sans encore s'imaginer ce qui l'attendait ici.
Moralité, ne vous fiez pas à autrui. Bon, alors... Excusez-la. Un lecteur a dit en parlant de ce livre-là, et vous l'aurez compris certainement, c'est que le système dans le livre en question est complètement biaisé. Les forces de l'ordre ont complètement abandonné l'essentiel de leur travail et c'est pour toutes ces raisons-là que la fameuse Kate, qui elle va s'en sortir, là, va déployer tout l'arsenal de violence le plus incroyable. Enfin, je dis ça parce qu'on me l'a dit, quoi, parce que c'est le genre de truc que généralement rendu à la page 50. Ça marche plus. Bon, alors, on quitte l'univers des cochons et des survivantes et on s'en va dans l'univers de Jean-Christophe Ruffin. Avec son personnage d'Aurel, Aurel le Consul, les aventures d'Aurel le Consul, Aurel Timescu, qui cette fois-ci fait l'objet d'une promotion. Alors le voici, l'Aurel en question, le premier qui me dit « et hardi à une claque », le voici donc en Europe, ou presque, il est nommé en Albanie. État voisin de la Grèce et de l'Italie, mais l'Albanie qui n'est pas un pays comme les autres. C'est un territoire somptueux, certes, entre mer et montagne, qui donne une apparence de paix, mais c'est pas si paisible que cela. Au fil des siècles, il y a eu bien des invasions en Albanie. On a souffert notamment de dictatures terribles. Et le peuple, du moins dans le livre, se protège en se forgeant ses propres lois. Un espèce de code de l'honneur, surtout dans les campagnes, régit tous les aspects de la vie jusqu'à la vengeance. Alors est-ce pour cela qu'on peut y mourir deux fois, comme on le dit ? Un certain Marc Lumière, qui vient d'être assassiné à Chamonix, mais est officiellement mort 30 ans plus tôt en Albanie, fait par exemple l'objet d'une enquête. Alors Aurel, comme toujours, c'est lui qui va aller fouiller là-dedans pour comprendre ce qui se passe. Je vous propose un extrait de « Le revenant d'Albanie, les aventures d'Aurel le Consul » de Jean-Christophe Ruffin, lu par Vincent de Bouard.
Passèrent ensuite près d'un groupe plus jeune qui comptait plusieurs femmes en son sein. Les hommes avaient le col ouvert et certains étaient en manches de chemise. Tous parlaient bruyamment et riaient fort. Mauvigné avança sans les saluer et leur lança un regard mauvais. Quand ils furent installés à l'écart dans un coin, il se pencha vers Aurel. « La réforme du Sénat a un peu changé notre population. » fit-il en secouant ses badigoins d'un air désapprobateur. Puis, sur un ton plus bas, « Des sénateurs d'extrême gauche. Un peu bizarre l'association de ces deux mots, vous ne trouvez pas ? Comme si on disait « une chambre au Ritz avec les toilettes sur le palier ». Il fut secoué d'un rire caverneux qui semblait sortir d'un aven d'Écosse. Aurel se dit qu'il avait bien fait de porter une cravate. Sollicité par le serveur, Mauvigné commanda des menus et deux bouteilles de vin. Le rouge, c'est pour moi, mais je crois me souvenir que vous préférez le blanc. Il se cala sur sa chaise et dévisagea Aurel. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis Bakou. Meilleure mine, peut-être. J'imagine que c'est le soleil du Mexique.
Je suis rentré la semaine dernière.
Je sais. « Figurez-vous que depuis notre rencontre en Azerbaïdjan, j'ai suivi attentivement votre carrière. » Le mot de « carrière », appliqué à la désastreuse errance d'Aurel dans des postes minables, aurait pu être pris comme de l'ironie. Mais Mauvigné n'était pas du genre à juger les hommes selon les critères de la haute administration qu'il n'omettait jamais de qualifier de « parisienne ». Son bon sourire montrait qu'il avait pour Aurel une sincère affection. J'ai longtemps attendu de pouvoir vous manifester ma reconnaissance pour ce que vous avez fait pour moi, dit-il. Puis, en laissant passer un temps, il ajouta d'une voix forte. Maintenant, c'est chose faite. Je viens d'être nommé président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Toutes mes félicitations, s'exclama Aurel en s'inclinant si cérémonieusement que son front buta contre son assiette. Mauvigné leva la main pour couper court à toute flagornerie. Aucun compliment ne se hausserait jamais à la hauteur de l'admiration qu'il nourrissait pour lui-même. Alors, autant rester simple. « Figurez-vous, reprit-il pour revenir au concret,
que je conçois surtout ce poste comme un moyen de rendre justice. Vous n'ignorez pas qu'avant d'être élu, j'avais un cabinet d'avocat. La justice, c'est ma grande passion. La vôtre aussi, je crois. Combattre une injustice était en effet le seul moteur qui put encore motiver Aurel à agir. Rétif à toute forme de travail, surtout dans la diplomatie qu'il servait par les hasards de la vie, il était capable de se surpasser dès qu'un être faible était injustement accablé. Il ne supportait pas de voir un innocent accusé, un coupable en liberté, un corrompu recevoir des honneurs. Hélas, le malheur voulait que ces occasions où il révélait tous ses talents étaient aussi celles qui lui avaient valu le plus d'ennuis.
Un extrait de « Le revenant d'Albanie » de Jean-Christophe Ruffin, « Les aventures d'Aurel le consul » lu par Vincent Deboire, qui vient mettre un terme à cette émission, ma foi, plein de saveurs étrangères. À la semaine prochaine.